Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Tchemo.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Échappée ferroviaire, l'émission qui vous fait redécouvrir l'Île-de-France par le train. Et pour faire cette émission, je suis accompagnée de Hugo.
Bonsoir Alicia, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur le 93.9. Et ce mois-ci, nous vous proposons de mettre notre boussole, notre cap, et de prendre surtout le train jusqu'à Provins. Provins, c'est notre destination mensuelle. Nous sommes à 77 km au sud-est de Paris, dans le département de la Seine-et-Marne.
Hugo, donne-nous les détails de notre programme pour cette émission.
Allez, au programme, comme chaque mois, nous vous proposons une petite randonnée à travers un territoire francilien. Ce mois-ci, une randonnée uniquement sur Provins, parce qu'il y a tellement de belles choses et de détours, de particularités architecturales et aussi paysagères à voir sur Provins, que nous avons consacré toute notre partie voyage sur cette ville. Nous irons visiter sa ville haute, sa ville basse, nous irons visiter ses remparts, sa tour, ses souterrains, sa roseraie, bref, plein de belles choses sont au programme. Deuxième partie de l'émission, c'est l'interview du mois. Nous allons rencontrer une personne, un acteur important de notre région. Et ce mois-ci, nous posons notre micro au sein des locaux, chez SNCF Transilien Voyageurs, pour parler du dispositif C'est pas loin en train avec Amandine Martin, qui est la secrétaire générale de SNCF Transilien. Et pour clore notre émission, évidemment, l'agenda, le fameux agenda mensuel que vous attendez toutes et tous, évidemment, et ça sera à la fin de la mission.
On commence tout de suite avec l'interview de Morgane qui va nous présenter cette fameuse ville, Provins. C'est parti !
Alors bonjour à tous, on est arrivé à l'office de tourisme depuis la gare de Provins. Donc on va commencer cette visite de Provins. Et moi, je me trouve devant une maquette gigantesque de Provins, en fait, parce que dans cet office de tourisme, on peut trouver une petite maquette qui date de quand déjà ?
Alors, de quand elle date précisément, la maquette ? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, elle représente la ville médiévale, donc 13e siècle.
Ok, parfait. Donc, vous êtes chargé des visites pour faire découvrir Provins à un peu tout le monde ici.
Tout à fait. Moi, mon rôle, c'est de faire découvrir la ville de Provins, donc l'histoire de la ville de Provins aux enfants, aux adultes, à tout le monde, à ceux qui sont intéressés.
Donc, vous avez compris, on est accompagné de Morgane pour cette visite. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qu'on a devant nous ?
Alors, donc, la maquette que nous avons là devant nous, elle représente la ville de Provins à l'époque médiévale, à l'époque de la grandeur de Provins, donc 12e, 13e siècle. On peut encore voir les remparts, les fameux remparts qui mesuraient quand même 5 km à l'origine. Aujourd'hui, on en a conservé 1,5 km. Et on peut aussi voir les différents monuments incontournables de la ville, la Tour César, la Grand Jodime, la Collégiale. Donc, monuments 12e, 13e siècle, dans leur état authentique, ce qui a permis le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ok. Donc nous, on est l'office de tourisme, après on va passer devant la Grand Jodime d'abord, c'est ça ?
Tout à fait.
Ok, les remparts, Grand Jodime, Tour César, bon, on va découvrir tout ça.
Tour César et Collégiale Saint-Kyrias, évidemment.
Oui, bon, on va découvrir ça tout de suite.
Alors, première étape de notre parcours, on est parti de l'office de tourisme. Maintenant, on est arrivé devant les remparts, devant une porte fortifiée. Ces remparts, ils ont été restaurés pendant de longues années.
Et, de très longues décennies de restauration de ces remparts. Mais ça y est, c'est fini, ils sont tout beaux maintenant.
Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut peut-être y accéder aussi, on peut y grimper sur certaines parties.
Il y a certaines parties des remparts qui sont accessibles aux touristes, au niveau de la porte Saint-Jean et au niveau de la porte de Jouy.
Donc c'est vraiment l'entrée historique, parce que même au Moyen-Âge, donc, on passait par là et il y avait les marchands.
Tout à fait, venaient. Les voyageurs, les marchands, les armées, tout le monde passait forcément par ces portes fortifiées, 13e siècle. Donc Provins, c'est une ville qui est au carrefour, on va dire, de plein de routes commerciales, notamment Provins et sa région, le comté de Champagne. Donc le comté de Champagne étant central en Europe et à proximité d'énormément de routes commerciales, c'est ça qui va permettre d'en faire une région commerciale de commerce international. Il y avait ici en Champagne 6 grandes foires qui duraient environ 2 mois chacune et qui accueillaient des marchands de toute l'Europe, Italie, Flandre, Espagne, Angleterre, et on pouvait vendre donc et acheter des marchandises de luxe, les épices, les soieries, les fourrures, l'or, l'argent, etc., etc. Et c'est ça qui va faire la richesse de la ville de Provins et en faire la troisième ville la plus riche du royaume au XIIIe siècle.
Alors on est passé des remparts à la Grange aux Dîmes. Alors déjà entre les remparts et la Grange aux Dîmes, on est passé dans les petites ruelles de la ville haute de Provins. Donc à travers des maisons à colombages, en tout cas on retrouve ce charme et on a l'impression d'être un peu transporté dans le temps. J'ai envie de dire c'est un voyage un peu hors du temps, Provins.
C'est le but. C'est le but de voyager dans le temps.
Et maintenant, on se retrouve même dans la Grange aux Dîmes, au sous-sol même de cette Grange aux Dîmes, dans les caves. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce bâtiment, sa fonction initiale ?
Avec plaisir. Alors donc ce bâtiment, cette Grange aux Dîmes qui date du XIIe siècle, on l'appelait Fort Cadas à sa construction. Et Fort Cadas, c'est un bâtiment qui servait de marché couvert. C'était le point en fait, de rendez-vous des marchands pendant ces grands marchés que l'on appelait donc des foires. Et les marchands pouvaient vendre, stocker et vivre pendant les 2 mois de la foire dans ce bâtiment. Donc on pouvait se côtoyer dans ce bâtiment, le marchand italien, le marchand flamand, le marchand espagnol. Toutes les nationalités de marchands pouvaient se côtoyer dans ce magnifique bâtiment, donc 12e siècle.
Donc ces marchands, ils restaient 2 mois, c'est ça ? Donc c'était quand même sur des périodes plus ou moins longues finalement.
C'était des périodes assez longues. Nous à Provins, il y avait 2 foires par an, une en mai-juin qui durait 6 semaines et une autre en septembre-octobre qui durait également 6 semaines.
Parce qu'ils effectuaient tout un parcours en fait dans la Champagne ?
Tout à fait. Il y avait en fait ils faisaient un peu un voyage, ils pouvaient voyager de ville en ville, passer de Provins à Troyes, aller à Lagny-sur-Marne, Bar-sur-Aube, participer donc à ces grands marchés. Et ils pouvaient y rester une année complète, parce que les foires avaient lieu donc de janvier à décembre, sur des périodes voilà, de plus ou moins longues, de quelques semaines, de 2 semaines au minimum, jusqu'à 5 à 6 semaines.
D'accord. Bon, la Grange aux Dîmes, c'est un lieu qui est ouvert au public, on peut y accéder.
Tout à fait.
C'est vrai que ce qui est super intéressant ici, c'est quand on déambule, donc quand on rentre dans le rez-de-chaussée, c'est qu'on va voir des reconstitutions de différents marchands. Donc, est-ce que ces marchands-là, il y a aussi des artisans au rez-de-chaussée. Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler un petit peu le fonctionnement de ce bâtiment ? C'est-à-dire qu'à la fois, on pouvait y dormir, enfin, les marchands pouvaient y dormir, mais donc aussi vendre et même stocker.
Tout à fait. C'était un bâtiment tout en un. Les marchands donc, louaient une échoppe où ils accueillaient leurs clients, ils vendaient leurs marchandises. Il y avait un espace où ils pouvaient également stocker les réserves de marchandises, les livraisons qu'ils devaient faire à leurs clients. Et comme ils étaient là pendant plusieurs semaines, évidemment, ils avaient un lieu pour pouvoir dormir, se reposer. Il y a un dortoir au dernier étage qui malheureusement ne se visite pas. Mais donc il y avait un magnifique dortoir avec tout le confort, cheminée, latrine, etc., etc.
C'est vrai que déjà, donc, il y a les reconstitutions, mais aussi l'environnement est assez particulier parce qu'on a des espaces qui sont voûtés, qui ne sont pas forcément comme dans une maison traditionnelle comme on peut l'attendre. Donc c'est assez quand même particulier l'environnement architectural ici.
Tout à fait. Là, c'est un bon moyen de voir que même dans l'architecture civile, comme dans la Grange aux Dîmes, on peut avoir des plafonds voûtés comme on a l'habitude de voir dans les églises. Donc ces plafonds voûtés, ces voûtes en croisée d'ogive ne sont pas typiques de l'architecture religieuse. On le retrouve aussi dans l'architecture civile, comme on peut le voir à la Grange aux Dîmes.
Et retour par rapport aux marchands qui venaient aussi, et à cette époque-là du Moyen-Âge de manière générale, c'est vrai que cette époque-là nous a donné aujourd'hui de nombreuses expressions.
Tout à fait.
Donc, par exemple, le banquier.
Le terme de banquier donc, vient du métier des changeurs de monnaie, qui étaient installés sur des petites tables qu'on appelait des bancs, et du coup, de banc, ça donnait banquier. Il y en a encore beaucoup, comme par exemple l'expression « payer en espèces » qui découle du fait qu'on pouvait payer en épices au Moyen-Âge. Épices, se disant « espice » en ancien français, va donner donc « payer en espèces ». Il y en a encore bien d'autres. Je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin.
Et par rapport à ces marchands-là, il y avait évidemment le marchand de Provins, le Provinois, qui vendait sa spécialité par rapport au drap.
C'est ça, la spécialité industrielle de Provins à l'époque médiévale, c'est l'industrie drapière. On fabriquait des draps de laine de très très grande qualité. Cette qualité d'ailleurs était reconnue dans le monde entier. Et ce drap donc était reconnu pour sa qualité, mais aussi pour sa couleur. Le drap de Provins était avec une seule et unique couleur, c'était un bleu très très foncé que l'on obtenait à partir de la fleur de guêde et de la noix de galle et plus tard avec l'indigo. Et donc c'est un bleu très, très foncé que l'on appelle le bleu nerf.
Et aujourd'hui, on le retrouve le plus sur le marché, ce bleu?
Non, c'est une industrie qui a été abandonnée à la fin du Moyen-Âge, lorsque le comté de Champagne va faire partie intégrante du royaume de France. Là, cette industrie drapière va péricliter et va être abandonnée.
Alors, on continue notre visite. On se retrouve devant une autre maquette, cette fois de la Tour César. Juste avant, on est passé par la place du Châtel.
C'est ça.
C'est ça. Et maintenant, on se retrouve à la Tour César. Elle est toujours grande, très très grande et toujours imposante.
Elle est très imposante. D'ailleurs, au XIIe siècle, quand on va construire cette tour, elle ne s'appelait pas Tour César, bien sûr, elle s'appelait la Grosse Tour. On comprend pourquoi quand on est devant, c'est une tour très très massive. On ne s'embêtait pas pour les noms au Moyen-Âge. C'est une tour, elle est grosse. Bon, ben Grosse Tour, ça lui va très bien. Et le nom de Tour César lui vient de, seulement du 18e siècle, 18-19e, où on va chercher à mettre en avant des monuments importants de l'histoire de France en leur donnant le titre honorifique de César, comme le faisaient les empereurs pendant l'Antiquité romaine. Donc, Tour César. Mais voilà, c'est la grosse tour, ça lui va très très bien.
Alors, si on regarde cette maquette un peu plus précisément, je vois qu'il y a plusieurs étages. Est-ce qu'on peut parler d'abord du tout en haut? Parce qu'il y a une cloche aussi à l'intérieur, c'est
Il n'y en avait pas une, il y en a deux. Il y a deux cloches donc tout en haut. La tour César sert de clocher depuis le XVIIe siècle, à l'époque où le clocher de l'église va s'effondrer. On va mettre donc les six cloches de l'église en sécurité en haut de la tour César. Malheureusement, sur ces six, il y en a cinq qui vont être fondues à la Révolution française. Et la dernière existante va se fissurer au XIXe. Donc elle ne sonne plus aujourd'hui, mais elle est toujours visible, toujours présente. Et il y en a une autre qui sonne encore aujourd'hui, qui date du XIXe.
Ok. Et la fonction de cette tour, avant, c'était une prison, des fois?
Alors, elle a été prison à partir du XIIIe, mais sinon, à l'origine, c'est une tour de surveillance. C'est une tour qui sert à voir, mais aussi à être vue. C'est une tour d'honneur. C'est l'architecture ostentatoire de Provins. On aime montrer à quel point on est riche et puissant.
Il ne faudra pas confondre avec un donjon, justement.
Ce n'est pas un donjon, là. Il y a une grande différence, même si on peut l'appeler le donjon. Cette tour n'a jamais servi de tour de défense. Elle est très mal conçue pour la défense. Il y a beaucoup d'angles morts. Et surtout, ça n'a jamais été un lieu de vie. Le Seigneur n'a jamais habité ici. Il avait son palais juste derrière la tour César.
Alors là, on est monté. On est directement sur... près de la charpente de la tour César. Mais avant, je voulais reparler des chambres qu'il y avait en bas. Bon, les prisons et une chambre confortable.
Alors, il y a les prisons qui n'avaient pas du tout de confort. Mais il y a aussi dans l'une des petites tourelles d'angle, la chambre du gouverneur qui était là où travaillait, entre guillemets, l'employé du seigneur qui devait s'occuper de la bonne tenue de la tour César. Donc la chambre avec tout confort, cheminée. Et surtout, les latrines, les toilettes médiévales.
On les a vues tout à l'heure. Et là, on voit la vue sur tout Provins. C'est super sympa. On voit vraiment très, très loin.
Là, on est tout en haut donc, de la tour César. Et on est à l'étage qui servait vraiment de point d'observation ultime. Ici, par temps clair, on peut voir quand même jusqu'à 20 km. Okay. Donc, c'est vraiment un spot parfait pour surveiller les attaques des ennemis. Et également, aujourd'hui, ici, dans cet étage... dans ce haut étage de la tour, on a donc le clocher, où on peut encore voir aujourd'hui donc la dernière cloche du Moyen-Âge, qui est la plus grosse des deux, qui pèse quand même à peu près 3 tonnes, qui répond au nom de Kyrias. Et elle ne sonne plus depuis le 19e, et elle a été remplacée donc au 19e par une plus petite, qui ne pèse que 500 kilos, qui s'appelle Guimette, et qui sonne encore aujourd'hui toutes les heures. Je voulais parler des magnifiques charpentes, un travail de charpenterie incroyable entre celle du XVIIe qui soutient les cloches et celle du toit du XVIIIe qui a été construite pour protéger justement les fameuses cloches. Donc un travail incroyable de charpenterie.
Okay. Ah oui, donc les charpentes sont plus récentes que le bâtiment.
Oui. Okay. La charpente là du bas a été construite uniquement lorsqu'on va mettre les cloches pour soutenir les cloches. Et quelques dizaines d'années plus tard, on va protéger les cloches en construisant le toit où on peut voir la magnifique charpente, donc 18e.
Alors pour accéder, pour voir toutes ces charpentes, on est en rentrée dans un passage étroit.
Très très étroit.
Mais ça servait à quelque chose, ces passages.
Évidemment, c'est pas juste pour embêter les touristes. C'était surtout pour empêcher les combats et pour mieux protéger le seigneur et le trésor qui venaient se protéger et se mettre en sécurité au sommet de la tour en cas d'attaque. C'était pour éviter que les ennemis puissent facilement accéder à notre seigneur et aux richesses.
Et le seigneur, il vivait où? Je sais que vous avez dit qu'on pouvait le voir ici.
Alors le seigneur, il n'habitait pas dans la tour César, donc comme on disait tout à l'heure, ça n'a jamais été un logement. Le seigneur a son palais qui a été construit entre le 12e et le 13e, juste derrière la tour César, entre la tour César et l'église Saint-Kyrias.
On est ensemble, chers auditeurs, jusqu'à 21h avec Alicia pour vous faire découvrir cette cité médiévale de Provins. Dans quelques instants, nous allons découvrir les souterrains. Et oui, parce que il y a un réseau qui constitue cette ville. où en fait on pouvait accéder de maison en maison uniquement par un grand réseau de galeries. C'est ce que va nous présenter et Morgane dans quelques instants. On est toujours avec elle, qui est guide conférencière à l'Office du Tourisme de Provins. Puis nous allons aussi découvrir d'autres personnes, notamment Bruno, qui nous fera découvrir la roseraie, comme vous le savez. Mais en attendant la visite des souterrains, on va se faire une petite pause musicale avec Ladies Night de Cool and the Gang. Et on se retrouve juste après pour cette visite incroyable. Restez bien sur le 93.9.
Échappée ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9. Alors, on continue la balade, on marche, et là, on se retrouve devant la collégiale de Provins. Et ça devait être une collégiale beaucoup plus grande, en fait. Ça devait être une cathédrale.
Presque. Elle aurait eu la taille d'une cathédrale si elle avait été terminée. Donc là, manque de financement au 14e. Début 14e, on va stopper la construction de cette église. Mais si elle avait été terminée, elle aurait été beaucoup plus grande qu'elle ne l'est actuellement. Elle aurait été presque aussi grande que Notre-Dame de Paris. Donc elle a une superficie digne d'une cathédrale. Pour une simple collégiale comtale, c'est quand même pas mal. Tout ça pour rappeler encore ce côté ostentatoire de l'architecture. On montre à quel point on est riche et puissant.
Ouais, c'est ça. Et ici, il y avait le clocher justement qui devait être à la place d'une croix qu'on voit...
Tout à fait. Sur le parvis de la collégiale, on voit donc une croix en fer forgé qui marque l'emplacement du clocher d'origine de l'église qui s'est effondré au XVIIe, d'où la présence des cloches dans la tour César. Et normalement, l'église aurait dû rejoindre son clocher.
Donc on a aussi les trois forces...
On a les trois pouvoirs en place. Les trois pouvoirs en place à l'époque médiévale. Donc on a le militaire représenté par la tour César, le religieux représenté avec la collégiale Saint-Quirias, et juste à côté de la collégiale, on a l'ancien palais des comptes, qui représente bien sûr le pouvoir politique. Palais des comptes qu'on ne peut pas visiter malheureusement, puisque c'est un lycée actuellement.
Donc on voit typiquement l'architecture médiévale ici.
Tout à fait, la collégiale Saint-Quirias, elle est vraiment typique de l'architecture religieuse des 12e, 13e siècles, donc caractérisée par une voûte en croisée d'ogives, des arcs brisés, une hauteur sous plafond assez incroyable, une élévation à trois niveaux, donc grandes arcades, triforium, fenêtres hautes. Ça c'est vraiment typique de l'architecture médiévale. Mais on peut voir aussi de l'architecture un peu plus récente, puisque suite à un incendie, le dôme s'est effondré. Donc on a aujourd'hui un dôme qui est classique, de style classique, donc 18e siècle.
Juste aussi, je trouve aussi que c'est très sobre à l'intérieur. Est-ce qu'avant c'était peint ou
c'était peint, ouais.
Ah, c'était peint comme
dôme. Les églises au Moyen-Âge étaient peintes de couleurs très vives, du vert, du rouge, mais aussi du noir, du bleu. Et d'ailleurs, dans cette collégiale Saint-Quirias, on voit encore des restes de polychromie. Sur certaines colonnettes, on revoit encore des traces de peinture. Rouge et surtout noir. Okay. C'est les couleurs qui sont restées le plus. Mais oui, c'était peint, c'était même limite, nous on trouverait ça kitsch hein, aujourd'hui. Hein. C'était vraiment très très flash niveau couleur.
Donc on est passé de la collégiale qui était à la ville haute et maintenant on est descendu, on est allé sur la ville basse. Alors on a vu beaucoup de points de vue, notamment avec la tour César, les remparts aussi où on peut y accéder. Et maintenant on propose aux auditeurs de faire l'inverse, c'est-à-dire de rentrer dans les souterrains, dans ces souterrains de Provins où il y a à peu près plus de 10 kilomètres, c'est ça de...
Une dizaine de kilomètres répartis sous la ville haute mais aussi sous la ville basse.
D'accord, c'est beaucoup, c'est énorme aussi.
C'est beaucoup, ouais, c'est pas mal.
Et du coup, ces souterrains, ils ont accueilli plusieurs temps, enfin plusieurs choses. Déjà, il y a un premier temps par rapport au carrier, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y avait un système où, ce qui est intéressant ici, c'est-à-dire qu'on va utiliser les souterrains pour construire le dessus.
Tout à fait, c'est ça. En fait, les matériaux qui vont servir à la construction de la ville, que ce soit le calcaire qui va servir de pierre de taille, on va la trouver sous la ville haute. D'ailleurs, on retrouve ces magnifiques caves voûtées qui étaient les anciennes carrières de calcaire. Et en ville basse, on va surtout trouver de la craie qui servait en construction aussi pour faire tout ce qui est mortier, mais aussi la craie qui va être extraite et échauffée et utilisée aussi dans l'industrie drapière. Puisque la craie, une craie particulière qu'on appelle ici la terre à foulon, donc en trois mots, terre à foulon, c'était une terre qui avait un grand pouvoir nettoyant et dégraissant qu'on utilisait justement pour dégraisser les fameux draps de laine, les fameux draps de Provins qu'on a pu voir à la Grange aux Dîmes et leur donner donc leur très belle couleur bleu nerf. Donc ça servait en construction et en industrie.
Donc aujourd'hui, nous, on peut déambuler en tant que visiteur et partir à la visite à travers les différents guides qui proposent des visites ici. Donc on déambule sur quelques centaines de mètres.
Oui, 250 mètres à peu près qui sont ouvertes au public, donc uniquement sur visite guidée. Donc c'est quand même mieux pour comprendre l'histoire de la ville d'avoir un guide qui explique un petit peu voilà, l'histoire des souterrains. Donc des visites qui durent environ 45 minutes où on découvre voilà, 200 mètres de galeries de la ville basse, mais aussi des caves voûtées typiques donc de la ville haute. Donc on voit toute l'histoire des souterrains de Provins en 45 minutes.
Parfait. Et du coup, dans ce parcours de visite, on a évoqué les carriers, mais il y a aussi l'histoire aussi au niveau des marchands.
Oui, parce que ça a servi de stockage de vin, surtout puisqu'on a des conditions parfaites au niveau température et humidité pour le stockage du vin. Donc surtout 19e, ça va servir de stockage du vin. Et ça va aussi servir de lieu de réunion et pour l'initiation notamment des francs-maçons, la société maçonnique.
Ce qui est aussi rigolo, c'est qu'on peut essayer de partir un peu à la recherche aussi des graffitis, de ces espèces d'écritures, des personnes, des hommes qui sont passés par là.
Tout à fait, il y a plein de graffitis qui datent de plusieurs périodes. Les plus vieux que moi j'ai vus datent de 1600 et des, mais il y en a qui datent aussi du 18e, 19e siècle. Qui rappelle justement le passage des hommes carriers, marchands de vin ou francs-maçons qui sont passés par les souterrains au cours des siècles.
Et on finit par la visite par une très belle salle, donc une salle typique des caves qu'on peut retrouver, parce qu'il y en a beaucoup de caves, donc, comme on l'a évoqué, il y a des dizaines de kilomètres, donc on peut retrouver, qu'on ne voit pas, mais qu'il y a énormément dans l'ensemble.
Tout à fait, surtout sous la ville haute, où il y a énormément de caves voûtées, donc avec un magnifique plafond en croisée d'ogives. Et ce sont donc des caves qui sont privées. Il y en avait environ 300 qui ont été construites entre le 12e et le 13e siècle. Aujourd'hui, on en conserve à peu près 160. Il nous en reste une grosse moitié. Et la visite des souterrains se termine donc dans l'une de ces magnifiques caves voûtées 13e siècle, avec un magnifique plafond et de magnifiques chapiteaux sculptés.
C'est vrai qu'en plus, l'ambiance est particulière quand on déambule, surtout dans les souterrains, et qu'on arrive ici, c'est de surprise en surprise. Donc on ne s'attend pas forcément à avoir des pièces avec ce rite de franc-maçonnerie. Enfin bref, on laisse les auditeurs visiter et venir pour apprécier ce chemin, ces parcours.
Il ne faut pas trop en dire, sinon à quoi on sert, nous, les guides?
Et par rapport à l'ensemble de ces visites et des événements aussi à Provins, il y en a toute l'année?
Il y en a toute l'année, surtout sur la période estivale quand même. C'est surtout sur la période estivale où on a bien sûr notre événement incontournable qui sont les fêtes médiévales qui ont lieu au mois de juin tous les ans. On a également des événements qui se passent à l'été, en juillet et en août, qui s'appellent les lueurs du temps, où là on peut voir la ville de manière différente, où la ville est éclairée à la bougie. La tour César est ouverte de nuit et éclairée à la bougie. Et il y a également des visites guidées au flambeau qui sont proposées. Donc ça permet de voir Provins dans une autre ambiance, dans une ambiance beaucoup plus féerique, j'ai envie de dire. Et on a également, en hiver, on a quand même le marché de Noël, qui est un marché de Noël médiéval, donc qui est assez particulier. C'est vraiment autre chose que les marchés de Noël, comme on peut voir ailleurs en France. Nous, on a un marché de Noël typiquement médiéval. Donc voilà les grands événements. Et on a également la fête de la moisson qui se passe fin août. Où là, c'est pour fêter justement la fin des moissons, des cultures, des champs. Il y a une déambulation de tracteurs anciens. Là, on quitte un peu le Moyen-Âge, mais c'est aussi festif et très, très intéressant.
Plein d'animations sur Provins, du coup, mais aussi donc, des visites guidées. Des visites guidées, il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de thématiques aussi que
tout
vous pouvez
fait.
Évoquer. Donc, on encourage les auditeurs à faire une de ces magnifiques visites guidées que vous proposez avec l'Office de tourisme de Provins.
Nous, il y a beaucoup de visites guidées, donc soit pour les groupes avec des thématiques particulières, mais aussi des visites pour les individuels qui ont lieu tous les week-ends au départ de l'Office de tourisme. Et tous les renseignements sont disponibles sur le site internet ou à l'Office de tourisme. Mais n'hésitez pas, on est là.
Écoutez, merci beaucoup Morgane pour cette visite, c'est vraiment passionnant de vous écouter.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Morgane de nous avoir fait découvrir Provins. Mais attendez, ce n'est pas fini, on en a encore beaucoup à découvrir puisque là, on va rejoindre Bruno qui va nous faire découvrir sa roseraie. Là-bas, il regorge de beaucoup de roses et surtout de la rose de Provins. Attendez juste un instant, le temps d'une pause musicale avec Upside Down de Diana Rose et on se retrouve juste après pour l'interview de Bruno.
Échappée ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9.
Des souterrains, on a revu la tête à la lumière du jour pour quitter Morgane et l'Office de tourisme de Provins pour venir visiter la roseraie qui est un autre lieu incontournable de Provins dans votre visite, dans notre déambulation même. Et on est avec Bruno qui est propriétaire de ce jardin, de cette roseraie de Provins. Là, cette roseraie qui fait plus de 3 hectares et presque plus de 500 variétés de roses, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc ce jardin... J'imagine que... Enfin, déjà, il y a la rose de Provins. C'est quand même l'incontournable.
Alors, en premier, c'est la rose de Provins. C'est elle qui m'a donné l'idée de m'appuyer sur elle pour remonter toute l'histoire de la rose du début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Et donc, vous avez toute l'évolution de la rose à travers les siècles. Donc, vous avez la famille des Galliques, la famille des Albas, la famille des Centifolia, les Portlandes et les Noisettes. Pour aller après sur des hybrides modernes qui refleurissent plusieurs fois dans l'année.
La rose de Provins, c'est une rose quand même spécifique, on ne peut pas la retrouver ailleurs. Enfin, elle a des propriétés, j'imagine.
Oui, elle a des propriétés, elle a d'énormes vertus, et justement, du temps de Napoléon, Linné la nomme Gallica officinalis, parce qu'elle était vendue au Moyen-Âge pour toutes ses vertus médicinales.
Donc il y a aussi un lien qu'on évoque sûrement. Enfin, il y a un lien avec ces marchands et du coup les comptes.
Voilà, tout à fait. Il y avait une rue des apothicaires et les apothicaires vendaient tous les produits de la rose. Si vous voulez une autre anecdote, du temps de Napoléon, avant de partir en campagne, il venait chercher des baumes issus donc de la fabrication avec cette rose parce qu'elle avait des vertus pour calmer les problèmes de fessiers des cavaliers de Napoléon.
D'accord. Voilà. Et bon, aujourd'hui, on peut observer ces roses quand elles fleurissent, évidemment, dans votre roseraie.
Voilà.
Et c'est des roses, c'est aussi qui a la particularité ici que vous exposez et que vous proposez aux visiteurs, c'est des roses parfumées.
Voilà. Je me suis spécialisé dans les roses parfumées hein, parce que j'ai bien vu que les visiteurs, quand ils voient la plus belle des fleurs, c'est-à-dire la rose, aiment bien aller les sentir pour voir justement l'expression des parfums. Vous avez, ça peut aller du parfum d'épices en passant par les agrumes et en passant par les fruits aussi. Il y a diverses et variées. Ça ne sent pas que la rose. Hein.
D'accord. Donc il y a une infinie de variétés. Enfin, il y a une
infinité. Infinie de variétés, oui, tout à fait.
Et on peut toujours en créer des roses aujourd'hui. Enfin,
bien sûr, ils s'en créent. Vous avez des ce qu'on appelle des obtenteurs en France qui créent des roses environ, on va dire, une bonne dizaine par an.
D'accord.
Et qui arrivent sur le marché. Donc ça se passe avec une mise, un baptême si vous voulez, où on choisit un parrain et une marraine. Et la rose porte le nom du parrain ou de la marraine. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez pouvoir côtoyer par exemple la rose Édith Piaf, par exemple la rose Jean-Pierre de Foucault, par exemple plein de Blanche de Castille aussi. Hein, vous avez différents noms. Et justement dans mon jardin, vous verrez, toutes les roses sont pancartées avec le nom du rosier.
D'accord. Et ce jardin qui fait donc environ 3 hectares.
Oui.
Et j'imagine que vous l'avez divisé en plusieurs zones. Enfin, il y a des thématiques.
Voilà.
Où...
Vous avez une succession de chambres de verdure. Par rapport à une roseraie classique, vous arrivez dans une roseraie comme par exemple, si vous connaissez la roseraie de Bagatelle, qui est assez renommée, eh bien. Vous arrivez, c'est bien à l'intérieur d'un parc, mais toutes les roses sont concentrées devant le château, hein, sur 5000 ou 6000 mètres carrés. Alors qu'ici, moi j'ai voulu faire un jardin 21e siècle, c'est-à-dire que ben, vous allez vous déambuler dans tout le parc et au détour des allées, vous trouvez un massif, deux massifs, une ambiance différente. En gros, ce qu'on peut reproduire, c'est là où je fais un peu de pédagogie, ce que l'on peut reproduire dans les jardins des particuliers. Voilà.
D'accord. Et donc là, je vois, enfin là, on est devant une espèce de parterre qui, enfin, à mon avis, enfin, avec des espèces de taupières, c'est ça. Enfin,
voilà, tout à fait, oui. Bravo.
c'est le peu de connaissances que voilà. J'ai de mes certaines
oui,
visites.
Oui. On a la chance d'avoir récupéré des buis donc qui ont à peu près 80 ans d'âge, et donc bien, avec les buis, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'art taupière, c'est-à-dire de façonner et de retailler. Au fil de l'année de végétation, eh bien, différents personnages, voire monuments, voire enfin, libre à vous de tailler votre arbuste comme bon vous semble.
Parce que là, je vois un lapin, donc voilà. Il y a des choses à découvrir.
Il y a un lapin, il y a une tortue, il y a un escargot, il y a... On est à côté là d'une structure qui représente justement la fameuse tour de César qui nous domine puisque le jardin est situé en contrebas de tous les monuments de la ville. Il est vraiment à l'intérieur, le jardin de 3 hectares est à l'intérieur de la ville et vous allez voir en déambulant à l'intérieur du jardin qu'on n'aperçoit aucune maison, on est vraiment à l'intérieur d'un jardin.
Oui, c'est vrai, c'est particulier, c'est-à-dire voilà. Qu'on a l'impression tout de suite de passer dans un autre monde, dans cette roseraie.
Tout à fait, vous êtes vraiment dans un endroit très nature, très reposant, qui plus est en été très rafraîchissant, puisque le jardin est arrosé de petites rivières, et moyennant quoi, vous avez la fraîcheur, on est sous les arbres, donc beaucoup d'arbres et d'arbustes qui vous donnent ce côté apaisant. Et puis, en plus de la fraîcheur, on est sur un marais. Toute la ville basse étant située sur un marais, bien, vous voyez qu'on est là en ce moment, toutes les pelouses sont vertes. Vous pouvez revenir à mi-août, septembre, les pelouses seront toujours vertes, même s'il y a la canicule pendant un mois ou deux mois. L'année dernière, les pelouses étaient vertes toute l'année.
D'accord. Voilà. Ce travail, c'est un travail... Enfin, il faut être passionné pour faire ce travail, entretenir cette roseraie, enfin, sinon ce
n'est
pas possible. Et... J'ai envie de poser la question de comment vous est venue cette vocation pour créer cette roseraie.
L'idée, ben écoutez, déjà, moi j'étais déjà dans la nature puisque j'étais agriculteur. J'ai transmis mon exploitation à ma fille aux abords de la retraite. Et puis j'ai considéré qu'en retraite, il fallait, je dirais, assouvir sa passion. Et comme j'avais la passion du végétal, et qu'à Provins, on est tout de même un point très important dans l'évolution de la rose à travers les siècles, hein, puisque tous les livres botaniques citent Provins comme un point passage obligé de l'évolution de la rose entre la première rose qui est arrivée sur Terre et les hybrides modernes qui sont maintenant. Donc j'ai voulu vraiment témoigner sur Provins cette belle rose en la montrant de diverses manières. Voilà. Et là, vous avez une rose que l'on a baptisée ici, qui s'appelle la rose Julie Andrieux. C'est les établissements d'Elbar qui l'ont créée. Donc c'est une, ici, dans la roseraie, vous aurez une collection de roses parfumées. Hein? Donc celle-là, elle est parfumée. Vous pouvez évidemment la respirer si vous voulez. Voilà. Ben, toutes les roses ici sont parfumées. Ça, vous pouvez le mettre en avant dans votre reportage. Ici, c'est une collection de roses parfumées. Okay. Voilà. Et il y a plus de 500 variétés différentes. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que depuis les 15 ans d'abandon derrière le dernier pépiniériste et moi, mes 15 ans, il n'y a pas un gramme d'insecticide qui a été utilisé ici en chimie. Donc vous êtes dans un endroit vraiment nature. À un tel point, c'est que vous avez les auxiliaires du jardin qui sont là, les différentes espèces, et donc il n'y a pas un insecte qui prend le pas sur les autres familles d'insectes. Souvent, les rosiers qui sont dans les centres-villes, ils sont atteints par ce qu'on appelle les pucerons, les pucerons verts, qui viennent piquer la base du bouton. Eh bien ici, vous remarquerez qu'il n'y a pas de pucerons sur les rosiers.
Okay. Bah, c'était super sympa, on a fait toute notre petite visite. On est c'est un café ici, oui. On est revenu au café, à l'entrée.
À la terrasse, oui.
À la terrasse.
Une superbe vue, oui.
Et pour les informations pratiques, pour que les visiteurs, nos auditeurs puissent venir en
Alors,
tant que visiteurs.
Il n'y a pas de réservation. Hein, on a suffisamment de superficie pour accueillir un grand nombre de visiteurs.
C'est sûr.
Bon, sachant que je vous ai dit, l'idéal, le matin est tout de même très agréable. Hein, mais bon, l'après-midi, on prend aussi, vu que c'est arboré, il n'y a pas de problème. On est sur une longueur d'ouverture donc quotidienne du 1er avril au 11 novembre, hein, voire en période de basse saison comme le mois de novembre, décembre, février et mars, on ouvre 4 jours pendant le week-end, c'est-à-dire du vendredi midi au lundi soir. Hein? Et donc, ouverture quasi quotidienne, oui, de 10h à 19h30, donc pas d'arrêt pendant le midi, et les gens peuvent arriver le matin, repartir en fin d'après-midi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le prix d'entrée est variable suivant les époques de la saison. En gros, en basse saison, on est entre 3,50 et 4 euros pour aller donc au moment de la pleine saison à 7 euros par personne. Okay. Les enfants, eux, sont gratuits jusqu'à 12 ans.
Okay.
Donc les familles qui viennent, bon, ben, y a les deux parents qui payent. Et puis moyennant quoi, les enfants peuvent profiter du jardin.
Mmh. Très bien. Et aussi, vous proposez quelques produits, puisque
oui.
la fameuse rose de Provins.
Alors la fameuse rose de Provins, on la montre aussi bien au salon de thé que dans la boutique.
Okay. Hein,
on peut repartir avec son pot de confit, ou on peut déguster une glace à la rose, voire d'autres glaces, bien entendu, qui sont faites par un artisan. Et puis aussi, différents. En gros, on a fait un salon de thé qui donne vue sur les monuments, mais aussi sur le jardin. Et vous voyez que là, vous pouvez prendre un thé glacé, un thé à la rose, bien entendu, au milieu des plants de rose. Et vous avez les parfums qui entourent les tables. Mmh. Voilà.
C'est féerique, hein, comme.
Voilà. Donc c'est un endroit C'est un endroit assez cosy, assez charme de province. Ça. Vous n'êtes pas au milieu des voitures, il n'y a rien du tout. Là. C'est vraiment le calme absolu. C'est
sûr. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes passionné de roses. Et pour ceux qui sont aussi passionnés de jardinage, ils peuvent venir et vous demander des conseils. Tout à fait.
Moi, je passe du temps à expliquer quand on choisit un rosier. Je questionne la personne sur vraiment ce qu'elle veut et je suis capable de leur dire, voilà, ce rosier, il va faire ceci, il va faire cela. Et moyennant quoi, leur donner des conseils de jardinage pour l'implanter, voire pour le situer dans son jardin, voire dessiner une partie de jardin avec eux. Je veux justement transmettre mon savoir à tous ceux qui sont passionnés de jardin.
Est-ce que vous avez, on a fait une petite visite, mais est-ce que vous avez un endroit favori ici ou un endroit qu'il faut absolument voir, une rose qu'il faut absolument voir?
La rose de Provins, bien entendu, mais non. En gros, ce qu'il faut apprécier, c'est le côté nature du jardin. Je pense que ça, vous avez dû le ressentir, c'est très agréable de se promener dans un endroit où vraiment on écoute la nature, enfin la nature vous parle. Moi j'ai des personnes qui s'approchent des arbres, qui ressentent des ondes, qui ressentent... Vous avez vraiment un endroit là. L'avantage c'est qu'il est assez grand justement pour ne pas être perturbé par le voisinage.
Okay. Hein.
Et donc on a... Moi, cet endroit, je peux pas dédier un seul endroit. Vous avez de très beaux arbres, vous avez vu, il y a des charmes, il y a des hêtres asplenifolia qui sont quasi uniques en France. Vous avez plein de choses à voir et c'est chacun qui va y trouver son intérêt. Hein. Mais se perdre dans mon jardin, c'est le meilleur endroit.
Merci beaucoup pour cette interview. Merci.
Eh bien, écoutez, avec plaisir. Revenez surtout avec grand plaisir vous perdre dans mon jardin.
Chers auditeurs, c'est maintenant l'interview du mois. Ce mois-ci, nous avons posé nos micros au Salon mondial du tourisme du mois dernier et nous avons rencontré Amandine Martin, qui est secrétaire générale de SNCF Transilien Voyageurs, et avec elle, nous avons parlé d'une expérience que vous pouvez tous faire, tous et toutes utiliser en Ile-de-France, c'est l'application C'est pas loin en train, et on en parle juste après une pause musicale avec Raphaël. Avec Heursup.
Échappée ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9.
Les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je t'ai fait mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour.
Bonjour, alors on est depuis le Salon mondial du tourisme pour évoquer le dispositif que SNCF Transilien Voyageurs mène depuis 2020. Ça s'appelle C'est pas loin en train. Et c'est un tourisme, c'est développer le tourisme local, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que...
Oui, c'est ça. C'est pas loin en train, c'est notre offre de tourisme local et durable, puisque on propose des idées de balade à partir de nos trains, donc voyager de gare en gare, voilà. Donc c'est une offre de tourisme local et durable.
Ce dispositif, donc, il existe depuis la période du Covid. Comment ça a été, quoi la jeunesse, pourquoi vous avez mis en place cette offre-là?
Alors, après la période de confinement, du premier confinement en 2020, On s'est dit, enfin, on a tous ressenti le besoin d'aller s'aérer et donc d'aller voir un peu ailleurs. Mais on sait bien que à ce moment-là, on était contraints physiquement puisqu'on ne pouvait pas dépasser un certain nombre de kilomètres. Et eh bien, on s'est dit que Transilien, justement, comme on est partout en Île-de-France avec 390 gares, nous, à notre niveau, on pouvait proposer à nos voyageurs d'aller de s'aérer via nos trains. Et donc, on leur proposait des idées de balade. C'est comme ça qu'on a commencé l'offre de C'est pas loin en train. Donc on a travaillé avec un média qui s'appelle Enlargeur Paris, qui a travaillé avec nous sur des propositions de balades qu'on peut faire de gare en gare, ou alors à partir d'une gare, on fait une boucle, ou alors on va voir un site touristique un peu original, puisque vous savez qu'il y a 1200 sites touristiques en Île-de-France, donc on a largement le choix. Voilà, l'idée c'est peut-être d'aller au château de Versailles, mais peut-être avant d'aller visiter le potager du roi, ou de passer par Saint-Cyr l'école. Enfin voilà, il y a plein d'idées qu'on a accumulées depuis 2020. Et c'est un peu... à l'époque, on avait envie d'offrir des balades un peu en dehors des sentiers battus, voilà, pour faire connaître d'autres sites que les sites touristiques majeurs qu'on connaît un peu tous. On avait envie de se réapproprier le territoire, en tout cas de proposer aux voyageurs de se réapproprier leur propre territoire, chez eux, autour de chez eux. Et au-delà, puisque la région Île-de-France propose quand même beaucoup d'espaces naturels, sportifs, culturels et autres. Donc on a de la matière en fait à proposer. Voilà. Et 2020, pour nous, quand on a fait cette offre-là, il y avait trois enjeux. Donc, premier enjeu, c'était un enjeu social parce qu'on voulait offrir à tout le monde la possibilité de s'évader. Pour ceux qui ne pouvaient pas partir en vacances, puisqu'on a proposé ça à partir de l'été 2020. Voilà, donc social parce qu'avec un pass Navigo, hein, on peut aller partout. Et en plus, ça c'est... l'aspect tarifaire, d'ailleurs, s'est un peu renforcé puisque il y a deux ans, Île-de-France Mobilité a plafonné le prix du billet à 5 euros maximum, peu importe où on va en Île-de-France. Donc, c'est un vrai avantage. On peut se déplacer partout en Île-de-France à moindre coût. Voilà, donc ça, c'était le premier enjeu social. Il y avait un deuxième enjeu, c'était l'enjeu économique. Économique parce que on voulait aussi aider les acteurs du tourisme et les acteurs économiques reprendre un peu de souffle en les aidant, en communiquant sur ce qu'ils proposaient. Voilà. Et puis l'enjeu environnemental parce que face au dérèglement climatique qui est devant nous, qui est même d'ailleurs bien présent, plus que devant, on sait qu'avec une offre en train, donc c'est l'offre la plus décarbonée possible, on peut faire du tourisme durable. Voilà.
Donc en résumé, dispositif, donc c'est pas loin en train, on peut le retrouver un peu partout, que ce soit sur notre téléphone, sur notre ordinateur, parfois en affiche, en gare. Parce qu'il y a aussi, on avait vu des fois de certaines manières, enfin, une nouvelle signalétique, on a trouvé qu'il y avait une nouvelle signalétique dernièrement.
On a évolué.
Ça a évolué dans le sens où on va voir des petits pictogrammes avec vraiment les destinations à deux pas d'une gare. Donc il y a tous ces éléments-là donc, qui font l'offre c'est pas loin en train. Merci. Donc on retrouve le site internet, c'est ça, Transilien.com.
Il y a transilien.com, il y a une page dédiée, c'est pas loin en train. Vous tapez c'est pas loin en train et vous allez tomber sur cette page-là avec donc toutes les offres par ligne, par thématique, par envie. Voilà. Vous avez la déclinaison de l'application, donc c'est pas loin en train. Et puis on communique maintenant un peu plus largement en effet que les années précédentes pour essayer de convertir justement tous ceux qui prenaient leur voiture, par exemple, pour aller sur un site touristique, eh bien, on leur fait comprendre qu'ils peuvent le faire en train, qu'en plus, maintenant, il y a des billets beaucoup moins chers, puisque c'est plafonné à 5 euros maximum. peu importe où on va en Ile-de-France, et qu'il y a des merveilles à découvrir. Et donc ça, c'est notre travail partenarial avec tous les sites touristiques qu'on mène pour faire découvrir des nouvelles destinations, hein, parce que ça reste une destination, même si on est en Ile-de-France, de nouvelles destinations. Voilà, donc on communique pas mal, nos partenaires nous aident aussi. Hein. C'est vraiment un travail collectif de faire du tourisme local et durable, parce que, évidemment, moi, mon travail s'arrête un peu à la sortie de mes trains, donc à la sortie des gares. Et donc, j'ai besoin, moi aussi, des collectivités, des offices de tourisme. J'ai besoin d'eux pour qu'ils réfléchissent à ce qu'on appelle, dans le monde des transports, le dernier kilomètre. Voilà, comment on amène les personnes qui ont fait l'effort de prendre le train, pour celles qui n'ont pas l'habitude de prendre le train pour se rendre sur un site touristique, comment on lui rend le dernier kilomètre plus facile. Ça, c'est un vrai enjeu collectif. Donc, évidemment, je remercie tout le monde à chaque fois dès qu'on peut avancer sur ce sujet-là.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'agenda du mois sélectionné aux petits oignons.
Comme tous les mois, chers auditeurs, maintenant place à notre agenda avec nos trois coups de cœur. Premier coup de cœur, Alicia, ça se passe au musée d'Orsay.
Au musée d'Orsay, vous avez l'exposition qui s'intitule « Nathanaël Herbelin, être ici est une splendeur ». C'est une artiste franco-israélienne qui a fait exposer ses tableaux de peinture au musée d'Orsay. C'est une petite exposition, mais super intéressante. Déjà, à l'affiche, il y a des chats. Et la représentation des chats en peinture, moi j'adore, donc évidemment, je suis allée voir. Mais surtout, j'ai découvert cet artiste grâce à Margot Bruvin. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Mais en fait, sur son compte Instagram, elle a donné la parole à cet artiste. Et grâce à elle, j'ai pu comprendre un peu plus l'intention derrière les peintures qu'elle a exposées, du coup, au musée d'Orsay. Donc, je vous invite à aller voir d'abord le compte Instagram de cette personne et ensuite aller voir cette exposition qui est au musée d'Orsay et qui est gratuite pour les moins de 26 ans, d'ailleurs. Ensuite, vous avez une autre exposition toujours au musée d'Orsay qui s'appelle Paris 1874, inventer l'impressionnisme. Donc il y a du Monet qui est exposé, d'ailleurs au musée d'Orsay, dans l'exposition permanente, il y a aussi du Monet, donc n'hésitez pas. C'est toujours un peu tendance l'impressionnisme. Donc voilà, deux expositions en une, tout ça au musée d'Orsay, et comme j'ai dit, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Profitez-en, étudiants qui sont auditeurs de cette émission, n'hésitez pas.
Deuxième coup de cœur, c'est la rando des Trois Châteaux et c'est le dimanche 28 avril prochain. Notez dès maintenant si vous ne saviez pas quoi faire le week-end prochain. Vous pouvez prendre votre petit agenda, que ce soit mobile ou papier, et notez que le dimanche prochain, vous ferez la rando des Trois Châteaux. Pourquoi ? Parce que c'est la randonnée qu'il faut faire à la fin du mois d'avril pour découvrir autrement le patrimoine francilien et du coup le patrimoine en Seine-et-Marne, puisque cette randonnée se situe dans le département de la Seine-et-Marne et qui est organisée par le département. C'est une randonnée emblématique qui relie trois châteaux, celui de Blandy-les-Tours, de Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau. Alors, vous allez me dire, une randonnée, oh là là, on va beaucoup marcher. Non, pas du tout, vous avez 7 parcours qui sont disponibles, de 4 km à Blandy-les-Tours jusqu'à 42 km qui relient Fontainebleau à Blandy-les-Tours. Il y en a pour tous, pour tous les goûts, et surtout, c'est gratuit et accessible. Donc, allez-y, et notamment deux parcours que nous vous recommandons, puisqu'ils sont accessibles en train, c'est celui de 14 km de Melun à Blandy-les-Tours. Puisque pour ce parcours notamment, ce qui est intéressant, et pour celui de Fontainebleau aussi à Blandy-les-Tours, vous avez aussi des navettes qui sont prévues pour le retour. Donc vous prenez moyennant 3 euros pour celui de 14 km ou de 5 euros pour celui de 42 km. Vous pourrez revenir à votre point de départ sans faire évidemment le retour de nouveau à pied. Tout ça est super bien organisé, il y a beaucoup d'animations, notamment à Blandy-les-Tours. C'est un village incroyable, une petite cité de caractère, et vous pourrez découvrir aussi gratuitement ce château médiéval avec toutes ses tours. Moi, j'aime beaucoup en plus cette ambiance. Alors moi, je peux aussi vous en parler puisque j'ai déjà testé il y a quelques années le parcours de 14 km. Et c'est, on traverse de magnifiques paysages. On va traverser le parc du château de Fontainebleau. Bref, c'est incroyable. Alors surtout, notez que vous allez faire la rando des trois châteaux. Vous avez toutes les informations pratiques sur le site du département de la Seine-et-Marne. Il y a même une page Facebook qui est dédiée à cette randonnée. Et on mettra évidemment toutes les informations sur le site web de la radio.
Hugo, est-ce que tu as un troisième coup de cœur à nous faire découvrir ?
Oui, Alicia, c'est une expérience immersive qui s'intitule La Nuit des Reines. C'est à la Basilique Saint-Denis. Souvenez-vous, nous avions posé notre micro en interviewant l'administrateur de ce monument incroyable où, je vous le rappelle, c'est là où reposent les rois et les reines de France. C'est un endroit chargé d'histoire, évidemment, très important par rapport à ça, mais aussi par rapport à ses vitraux. Et qui sont incroyables, puisqu'il y avait des couleurs que nous avions visitées. Moi, ça m'avait beaucoup marqué, les couleurs des vitraux, le matin notamment. Bref, c'est déjà un endroit, donc, comme vous le savez, donc, incroyable. Si vous n'avez pas pu écouter l'émission, n'hésitez pas, le replay est disponible sur toutes les plateformes. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que cette expérience immersive intitulée La Nuit des Reines, l'objectif, c'est de parcourir pendant une heure environ le parcours de visite que vous pouvez faire en journée de la Basilique Saint-Denis. Sauf que là, vous allez traverser les siècles et vivre carrément une enquête historique inédite au cœur de la basilique. C'est un spectacle qui est familial et unique en son genre parce qu'il y a un parcours, une mise en scène, mais surtout vous allez succéder des mises en scène avec différents comédiens qui seront dans des tenues créées spécifiquement pour cette occasion-là. Il y a plus de 200 personnes, des artistes, des acteurs, mais aussi des figurants bénévoles, des habitants de Saint-Denis et de ses environs qui vont participer pour vous proposer cette expérience-là. C'est, je pense, un coup de cœur. Enfin, je pense et même j'en suis sûr, un spectacle unique et incroyable qu'il faut faire absolument puisque, vous savez, c'est aussi ce mois-ci que va débuter la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Donc, ça s'appelle la Nuit des Reines, c'est sur différents jours, vous avez toutes les informations pratiques sur lanuitdesreines.fr. C'est une création d'une boîte de production qui s'appelle Polaris et c'est en partenariat évidemment avec nos amis du Centre des Monuments Nationaux. Donc, pour récapituler, vous avez une exposition coup de cœur au musée d'Orsay et la randonnée des Trois Châteaux et la Nuit des Reines. Toutes ces informations-là, vous avez bien sûr toutes ces informations sur le site web de la radio, radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.
Chers auditeurs, c'est la fin de votre émission favorite, Échappée Ferroviaire. Vous étiez bien sur le 93.9 et il est bientôt 21h.
Tout à fait, Alicia. Dans quelques instants, l'émission La Souterraine Radio prend le relais sur radiocampusparis.org et aussi sur Radio Campus Paris tout court. Et ce sera le moment de découvrir, redécouvrir une production musicale francophone autonome et surtout remplie de pépites et d'interviews. Alors restez bien sur le 93.9. Mais d'ici là, Alicia, on se retrouve sur les réseaux sociaux.
Oui, en ce qui concerne Échappée Ferroviaire, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme sur Instagram, comme sur TikTok, comme sur Twitter aussi. Et pour réécouter le replay de cette émission, si vous n'avez pas tout écouté, vous pouvez aller sur le site de radiocampusparis.org, mais aussi sur les plateformes de podcasts comme Spotify.
Alicia, on se retrouve le mois prochain, puisqu'évidemment, Échappée Ferroviaire, c'est une fois par mois de 20h à 21h sur votre radio préférée. Alicia, le mois prochain, on dit pas. Ce sera la surprise. Comme tous les mois, nous allons redécouvrir avec vous l'Île-de-France. Nous allons faire un voyage, de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres sur Radio Campus Paris. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci, passez un très bon week-end aussi sur le 93.9. Mais d'ici là, n'oubliez pas, le train,
c'est sympa.